c'est le bipède le plus rapide au monde.
Pas ça ! Non !
Ses articulations et tendons très élastiques génèrent une puissance phénoménale. Il confère aux volatiles vitesse et foulée bondissante.
Non ! Non ! Non !
Qu'est-ce que cela peut bien être ? Peut-être un corbeau ?
L'autruche est le plus grand oiseau actuellement vivant, mais elle est incapable de voler.
Il est bien connu que les autruches, au long cou, enfouissent leur tête profondément dans le sable quand elles se sentent menacées.
Faire l'autruche, c'est refuser de voir un problème en espérant qu'il s'en aille tout seul.
Non !
Ce qui est embêtant dans les oiseaux, c'est les mecs.
L'autruche.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans L'Autruche, l'émission qui vous fait sortir la tête du sable. Je suis Romain Boisrobert, accompagné de Rioma Novel, étudiant à l'ESJ Pro et l'Université Paul Valéry. Bonjour Rioma.
Bonjour Romain, alors aujourd'hui nous allons nous pencher sur le cas des éducateurs de rue face aux coupes budgétaires et leurs conséquences. C'est un métier d'animation sociale qui accompagne les jeunes pour favoriser leur insertion et éviter le décrochage scolaire. En janvier 2025, le budget de loi de finances présenté par François Bayrou prévoyait de nombreuses coupes budgétaires pour pallier la dette de la France, notamment dans le secteur social et culturel. Les médiateurs de rue font partie de ce secteur impacté par ces coupes. On dénombre environ 4000 éducateurs de rue exerçant dans 300 associations en France selon le CNAPS, le Comité National de Liaison des Acteurs de la Prévention Spécialisée. Ce sont les conseils départementaux qui sont les principaux financeurs des associations, dont la PS34 en Occitanie. Des financements qui seront donc revus à la baisse.
Et à cette occasion, nous accueillons deux invités sur le plateau. Max Müller, éducateur de rue à APS34, ainsi que militant CGT. Et Antoine Felletti, lui aussi éducateur pour AREA et syndiqué chez Sud Santé Sociaux. Ils viennent nous parler des impacts de ces coupes budgétaires sur l'emploi d'éducateurs. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Et au programme également de cette émission, une chronique de Perrine Sauvage au sujet des causes de cette baisse de subventions et les acteurs impliqués dans ce processus, suivi d'un reportage réalisé par Célia Alibeu et Lucie Frata sur l'association de prévention spécialisée de l'Hérault, APS34, et son impact sur les jeunes.
Ce qui est embêtant dans les oiseaux, c'est les mecs.
L'autruche.
Max Müller et Antoine Felletti, vous êtes donc éducateurs spécialisés de rue. Pour être sûr, dit-on éducateur spécialisé ou éducateur de rue ?
Alors, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'Antoine et moi, on est tous les deux éducateurs spécialisés, donc on exerce dans le travail social. Éducateur de rue, c'est une spécificité puisqu'on peut être éducateur dans le handicap, éducateur en foyer de la protection de l'enfance. Nous, la particularité, c'est qu'on est éducateur de rue et donc du coup, comme l'indique le nom, c'est qu'on intervient principalement dans la rue.
Avec peut-être moins la particularité que justement, moi, je ne suis pas éducateur de rue, moi, je suis éducateur spécialisé. J'interviens dans un autre secteur. Par contre, je connais un peu la pratique d'éducateur de rue, même si ce n'est pas mon cœur de métier à moi.
Et justement, à ce propos, quel type de public est-ce que vous accompagnez dans ce cadre et dans quel lieu vous intervenez ?
Alors moi j'interviens du coup au sein des quartiers prioritaires de la ville, là en l'occurrence la Paillade. On accompagne principalement les 11-25 ans, donc plutôt les jeunes, mais aussi leurs familles sur un certain nombre de domaines. Donc ça peut être lié à la santé, au logement, à la formation, au travail, on touche un petit peu à tout.
Et moi, de mon côté, moi, je travaille avec un public qui vit en bidonville. Je fais de l'accompagnement social global. Ça veut dire que mon métier, c'est de m'occuper de tous les problèmes que ces personnes peuvent rencontrer. La particularité, c'est qu'ils vivent dans des bidonvilles, avec des temps où nous, on va sur le terrain dans les bidonvilles et d'autres temps où on reçoit les personnes directement dans nos locaux.
D'accord, très bien. Et par rapport à justement ce métier et puis ces déplacements qui sont même assez fréquents, quand vous en parlez autour de vous, comment ce métier est perçu par rapport à votre entourage ?
Bah, moi, dans mon entourage, c'est tronqué, c'est triché. Mon père et ma mère sont travailleurs sociaux de formation, donc dans mon entourage, c'est quelque chose qui est perçu de manière assez positive et assez dynamique. Par contre, c'est vrai que quand j'en parle avec mes amis, pour beaucoup, ce qu'on me renvoie en premier abord, c'est « Ah, mais parce qu'en fait, toi, tu aimes aider les gens ». Et donc, du coup, ça nécessite que moi, je leur explique que mon métier, ça dépasse simplement l'idée d'aider les gens.
Oui, je rejoins un peu ce que dit Antoine. Bah, mes parents, ils sont un peu inquiets sur le futur du métier et les possibilités d'évolution et les salaires. Et c'est sûr que ça rassure personne. D'autant plus quand on sait que la moyenne de vie d'un éducateur dans le métier, c'est 7 ans. C'est effectivement une carrière courte. Mais après, c'est un métier dans lequel globalement les personnes sont plutôt reconnaissant. On a quand même beaucoup de soutien au sein de la population, on a quand même beaucoup de personnes qui nous disent qu'ils ne seraient pas en capacité de faire les métiers qu'on fait, quoi.
Je me tourne vers vous, Max Muller. L'APS34, dont vous faites partie, a publié cet été une note d'alerte demandant le renforcement de son accompagnement face aux risques financiers dont on va parler juste après. Quelle est la situation de la PS34 aujourd'hui, notamment la structure, le nombre de salariés ?
Alors, c'est compliqué, puisque nous-mêmes, on a du mal à y voir clair. Il faut revenir un petit peu en arrière, à savoir le mois de février dernier, où les premières annonces du coup de coupes budgétaires et de licenciements avaient été annoncées par le conseil départemental de l'Hérault, où ils s'apprêtaient à couper près de 25% des effectifs. Nous, on avait entamé un mouvement de grève à ce moment-là. Le conseil départemental a fini par nous dire droit dans les yeux qu'il n'en était rien, qu'ils avaient voté un budget historiquement haut et qu'il n'y aurait aucun licenciement. Puis on a eu la surprise au 10 juin dernier d'apprendre que finalement c'était globalement des mensonges et que ça allait pas être 25% de licenciement cette fois-ci, mais 40 effectifs au 1er septembre. Le conseil départemental a fini par reculer durant l'été en disant qu'en fait non, il n'avait pas coupé les postes au 1er septembre 2025, mais qu'il s'apprêtait à le faire pour 2026. Du coup, suite à ces annonces du conseil départemental, la direction a mis en place un plan de mobilité interne et a autorisé, ce qu'elle ne le faisait pas auparavant, les ruptures conventionnelles. Donc du coup, pour déjà vider un petit peu l'association avant que les coupes budgétaires arrivent. Ce qui rend du coup la situation un peu instable, où on a beaucoup de départs, des arrêts maladie qui surviennent, et on ne sait pas encore jusqu'au bout à quelle sauce on va être mangé.
Et ça, on en reviendra justement sur ces coupes budgétaires. Antoine Feletti, éducateur de rue depuis 20 ans, c'est ça, vous travaillez pour l'association AREA auprès des personnes, comme vous l'avez dit, vivant dans les bidonvilles. Est-ce que vous vous sentez justement impacté par ces coupes budgétaires, surtout dans votre déplacement en équipe ou individuellement ?
Alors oui, pareil, cette question, c'est pas facile d'y répondre, parce que en fait, ça fait 20 ans que je suis éducateur, je travaillais dans plusieurs associations, donc j'ai eu le temps de voir ces coupes budgétaires impacter petit à petit, grignoter tous nos budgets dans le secteur social. Sur AREA, de manière un peu plus concrète, quand on rejoint le mouvement en solidarité d'APS34 et de ADAGE, à ce moment-là, on n'est pas directement impacté par les coupes budgétaires. Il y a des associations comme APS, ADAGE, Unicité, la DEPAP ou Culture et Sport Solidaire qui vivent directement des coupes de budget allant jusqu'à parfois 50% de leur budget. Et nous, sur AREA, à ce moment-là, on est protégé. Là où, en fait, on devient directement impacté par ces raisons-là, c'est que pour notre association, en fait, qui conserve 10 postes, 10 salariés, au 31 décembre 2025, on va être tous licenciés. Donc en fait, à la base, on n'était pas impacté par ces histoires de réduction de budget. On va pouvoir un peu le définir un peu plus en détail plus tard. Mais finalement, la réalité, c'est que nous, on perd nos postes au 31 janvier. Les 10 salariés se retrouvent au chômage cette année.
D'accord. Donc coupe drastique de la sécurité de l'emploi.
Oui et non, c'est là où c'est plus difficile à caractériser, c'est-à-dire qu'en fait, nos budgets sont donnés d'année en année, ils ne sont pas renouvelés pour une période longue, et cette année, notre financeur a décidé de ne pas attribuer ces budgets à notre association. Les missions persistent, et il y aura une autre association qui répondra à un appel d'offres, mais probablement avec un budget moindre que ce que nous, on défendait, parce qu'on avait une politique un peu de défense au niveau du travail social très élevée.
D'accord. Donc ça, justement, là, on l'avait abordé, donc je rebondis sur ce qu'avait dit Max, sur le département de l'Hérault, qui avait fait une première coupe budgétaire de 25% sur les éducateurs, qui s'est rétracté un mois plus tard pour dire que les financements étaient maintenus, avant de déclarer une coupe de 40% pour se rétracter à nouveau.
C'est exactement
donc,
ça.
Sur les 33 postes d'éducateurs présents dans le département, 13 se retrouvent menacés avec une restriction de 900 000 euros, c'est bien ce que j'avais compris, axée notamment sur les villes de Béziers et de Sète, qui sont les plus touchées. Est-ce que cette crise du financement est inédite ?
Oui, et j'ai même envie de compléter que ça ne concerne pas que Sète et Béziers, mais aussi du coup Frontignan, potentiellement Lunel, mais aussi l'équipe de La Mosson, donc à Montpellier, où il y a deux postes qui sont prévus d'être supprimés. A priori, c'est la disparition de la prévention spécialisée dans plusieurs villes. Donc à proprement parler, on pourrait même plus parler de prévention spécialisée de l'Hérault, puisque ça se concentrerait plus qu'à Montpellier et à Lunel pour plus très longtemps a priori. Mais oui, évidemment que c'est inédit. Il faut voir que on a un secteur à part entière du travail social. Il faut voir que ces coupes, elles nous concerne pas que nous à Montpellier, hein, c'est sur l'ensemble du territoire français que la prévention spécialisée elle est menacée. Il y a des territoires sur lesquels elle a déjà disparu, il y a des territoires qui je pense notamment à mes collègues de Narbonne dans l'Aude qui ont subi en mai dernier des coupes budgétaires conséquentes, puisque c'est plus de la moitié de l'association qui a été licenciée. Et donc oui, on voit que là l'air du temps il est pas à la prévention spécialisée, pas à la prévention, mais plutôt au répressif, qu'on ne peut pas délier ça non plus du contexte national et de tout ce qui, se dit un peu au-dessus de nous. Et donc, oui, je pense que dans le secteur, on connaissait depuis de nombreuses années des coûts budgétaires, des difficultés, des conditions de travail compliquées, des salaires qui étaient très bas. Par contre, les licenciements économiques, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas encore. Au contraire, on avait plutôt l'impression qu'il y avait beaucoup de monde qui démissionnait et qui était à bout. Mais alors, se faire licencier, pour le coup, ça, c'est assez inédit, quoi.
Justement, vous êtes tous les deux syndiqués, en plus d'être éducateurs. Quel regard portez-vous sur vos conditions de travail et les menaces qui pèsent sur sa pérennité ?
Alors, cette question, elle est super intéressante, parce que c'est vrai que ce qu'on a vu, c'est que nos conditions de travail, on a pu voir la parole juste dans les discussions juste avant, qu'elles s'étaient dégradées petit à petit. Quand on dit dégradées, ça veut dire qu'on perdait des budgets sur le fonctionnement, mais pas sur des choses forcément vitales. C'est-à-dire qu'on avait toujours nos postes qui étaient conservés, mais on avait moins de budget pour faire des animations avec les publics qu'on accompagnait, moins de budget pour les transports, moins de budget pour le fonctionnement. Donc on a vu les conditions de travail se dégrader. Ce qui est particulier dans la période, c'est que en fait, ça s'accélère énormément. Et donc, nous, le regard qu'on porte, c'est que ça va impacter énormément de gens, ça va impacter des salariés dans un travail qui est nécessaire, parce qu'en fait, notre travail, il est peu visible, mais il est super important pour le bien-être d'une société. Et donc, ça, c'est un peu ce qu'on défend, c'est-à-dire que nos revendications, elles vont dépasser le cadre simplement syndical ou le cadre du droit du travail, elles vont aller aussi sur le cadre politique. Aujourd'hui, on a des politiques nationales qui vont favoriser des budgets liés à la sécurité. L'exemple concret, on l'a vu à Montpellier, l'augmentation des caméras, la rénovation de commissariats de police dans les quartiers dits populaires, en défaveur des éducateurs de rue et de la prévention. Et c'est là, en fait, où nous, ce qu'on défend, c'est que ce modèle-là, en fait, ce n'est pas le modèle de société pour lequel on a envie de se battre. Et en tant que personne syndiquée, moi, je fais partie du syndicat Sud Santé Sociaux, c'est clairement des revendications politiques qu'on va porter auprès du gouvernement.
Oui, je rejoins ce que dit Antoine. Pour moi, on ne peut pas délier la question de nos conditions de travail et plus l'aspect un peu économique de nos métiers et celle des personnes qu'on accompagne. Parce que la réalité, oui, c'est moi, je suis éducateur de rue dans un quartier populaire où j'accompagne des personnes qui sont en fracture avec la société, qui parfois n'ont même plus d'adultes autour d'eux, qui sont dans des situations de danger considérable, que ce soit les jeunes filles qu'on accompagne qui se prostituent très jeunes, que ce soit les jeunes qui se retrouvent dans des réseaux de drogue. On voit bien qu'à l'échelle nationale, globalement, la personne, l'image un peu de la personne la plus haïe dans cette société-là, c'est vraiment le jeune de 15-16 ans issu de l'immigration et qui vit au sein des quartiers populaires. Et que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, bah, le projet pour ce jeune-là, oui, c'est de lui mettre un commissariat, de monter une brigade des logements ACM qui coûte plusieurs millions d'euros et qu'en même temps, en fait, on nous licencie, nous, puisque la seule chose qu'on a à lui proposer, c'est du répressif et que le préventif, c'est terminé. Et que donc, je pense qu'au-delà de la question de nos conditions de travail, dont on peut parler, hein, on a vraiment des salaires, des salaires de misère, où si on nous enlève aujourd'hui la prime Ségur pour laquelle on s'est battu, qui nous a été octroyée pour bon service rendu pendant le Covid, si on l'enlève, moi aujourd'hui je suis au SMIC. Donc vous voyez que voilà, c'est pas évident. Pour autant, je pense que oui, on est obligé aussi de montrer que, au-delà de la question de nos conditions de travail, c'est aussi et surtout la question des conditions de vie des personnes que nous on accompagne, quoi, qui est centrale et qu'on peut pas délier les deux.
Très bien. À ce propos, Perrine Sauvage va nous éclairer un peu plus sur les dessous de cette baisse de subvention. Contraintes budgétaires, rejet de la responsabilité, choix politique, nombre d'éléments qui méritent notre attention.
Depuis plusieurs mois, la prévention spécialisée dans l'Hérault est sur la sellette. L'association APS 34, qui intervient auprès des jeunes des quartiers populaires, voit ses financements baisser radicalement, menaçant le maintien de ses équipes et l'accompagnement éducatif de proximité. Mais d'où vient cette coupe budgétaire ? Il faut remonter en février dernier. Le conseil départemental de l'Hérault annonçait alors une réduction sévère dans le budget accordé à l'association. Les principaux motifs ? D'abord, les contraintes budgétaires que subit le département. En 2024, il avait dû absorber 103 millions d'euros. Et dans un communiqué de presse de mars 2025, Kléber Mesquida, président du département de l'Hérault, préciser, je cite, que 2025 s'annonce encore plus difficile avec des prévisions inquiétantes pour nos recettes et des charges qui continuent de croître. Fin de citation. S'ajoute à cela, selon la collectivité, le désengagement de certaines communes sur le financement de la prévention spécialisée telles que Béziers ou Sète. Résultat, 35% des effectifs de l'association pourraient disparaître, laissant Béziers, Sète ou encore Frontignan sans éducateur de rue.
Je comprends pas, Perrine. Qui doit financer la prévention spécialisée ? Le département ou les communes ?
C'est là que règne un flou juridique. La prévention spécialisée est en effet une compétence obligatoire de l'aide sociale à l'enfance gérée par les départements. Mais, et accrochez-vous bien, au financement facultatif. Bon, pour la faire courte, en juin 2017, après un litige entre une association de prévention spécialisée et le conseil départemental du Loiret, la cour administrative d'appel de Nantes avait confirmé qu'au même titre que les autres missions de l'aide sociale à l'enfance, le financement de la prévention spécialisée par les conseils départementaux est une obligation. Cependant, ce même arrêté précise également que le département peut toutefois librement définir les conditions d'exercice de la prévention spécialisée. Le conseil départemental de l'Hérault a ainsi décidé de fonctionner sur un principe de cofinancement, 70% par le département et 30% par les communes. Nous en arrivons alors à la situation actuelle. Certaines mairies n'ont pas souhaité participer à ce cofinancement. Le département a alors réduit la voilure, limitant la prévention spécialisée uniquement aux communes qui acceptent d'en payer d'une part.
Pardon, Perrine, mais pourtant on parle d'une mission relativement importante de l'aide sociale de l'enfance.
Pour certains observateurs, comme David Puyot, docteur en anthropologie sociale et ethnologie, la prévention spécialisée est souvent perçue comme une variable d'ajustement économique. Ni strictement protection de l'enfance, ni pure prévention de la délinquance, elle souffre d'un manque de légitimité politique dans les différents échelons institutionnels. Quand l'argent vient à manquer, c'est alors sur ce type d'action sociale que les arbitrages se font en premier. Cela risque d'aggraver les inégalités sociales et de laisser les jeunes les plus vulnérables privés d'un filet d'accompagnement pourtant essentiel.
Merci Perrine. Je me tourne vers vous, Max Müller. Le 23 octobre, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté justement une requête demandant l'annulation des restrictions budgétaires sur les sites de Béziers, Sète et Frontignan. Et comment expliquer ce flou juridique sur le financement de la prévention spécialisée ?
Alors je vais être un petit peu cru, mais Pour moi, ça, c'est un petit peu du charabia juridique où tout le monde se renvoie un peu la balle de « c'est pas de ma faute, c'est de ta faute, c'est la mienne, c'est pas la mienne ». La réalité, c'est que nous, on accompagne des jeunes qui sont dans la rue, qui sont en danger et que quelque part, peu importe qui est-ce qui le finance, même que ce soit l'État, le département, la région, la métropole, peu importe, on a des jeunes qui sont en situation de danger et la question, c'est la réalité, c'est mettez-vous d'accord pour payer. Enfin, je refuse de rentrer, moi, dans ce débat, puisque oui, il y a d'un côté, comme vous le disiez, la protection de l'enfance, c'est une compétence obligatoire du département. Pour baisser les budgets de la protection de l'enfance, il faut un changement de schéma de la protection de l'enfance et il faut un diagnostic de territoire. Il n'y a ni l'un ni l'autre dans notre situation, donc a priori, déjà, la baisse est parfaitement illégale. Pour autant, je dédouane absolument pas la mairie, et en l'occurrence de Montpellier, pour ce qui est de mon cas, elle aussi, elle a décidé de couper les budgets tout en se targuant qu'elle faisait beaucoup pour les quartiers populaires et notamment la paillade, qu'elle n'assume pas le fait que si aujourd'hui moi et une autre collègue allons perdre notre boulot, c'est parce que c'est elle qui s'apprête à couper les budgets et qu'on a vraiment une mairie à deux vitesses qui d'un côté tire un bilan en se disant très 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 positif de son action au sein de la paillade et qui en même temps en fait nous licencie. Moi je refuse de taper uniquement sur l'un et pas sur l'autre. Pour moi les deux ont une responsabilité là-dedans et que je pense que c'est vraiment très important de ne pas se limiter juste à la question de qui a quelles compétences. La réalité c'est que là on est en train de parler d'humains qui sont en danger, des enfants, on accompagne des personnes, il y a des petites filles de 10 ans qui se prostituent, enfin vous imaginez comment le débat il est complètement à côté quand on est en train de dire mais est-ce que c'est la mairie ou le département quoi.
Nous en parlions tout à l'heure, nous sommes rendus à Lunel dans les locaux d'APS 34 pour tenter d'en savoir un peu plus justement sur cette association fondée en 2007 et mieux comprendre le rôle de ce qu'on appelle la prévention spécialisée dans la vie des jeunes. Un reportage de Célia Alibeu et de Lucie Frata.
Bonjour. Un jour d'octobre, on a vu passer sur les réseaux sociaux une publication de la CGT qui annonçait une mobilisation des travailleurs sociaux contre les coupes budgétaires et les licenciements, le 9 octobre devant le conseil départemental. Ça a piqué notre curiosité. On s'est demandé quel est l'impact des éducateurs de rue sur les personnes qu'ils suivent. Alors, on a pris notre calepin et sous le soleil lunellois, on est allé à la rencontre de trois éducateurs de rue d'APS 34 Lunel devant le collège Frédéric Mistral.
Je suis Erwan Mani, du coup je suis chef de service à APS 34 sur les territoires de Montpellier-Ouest. Mon rôle dans l'association, c'est de pouvoir coordonner et accompagner les équipes dans l'activité de présence sociale, notamment, qui est la principale pratique des éducateurs de prévention spécialisée.
L'idée, c'était tout un accompagnement, notamment sur la parentalité, parce que des parents un peu délaissés, de se dire qu'est-ce que je fais avec mon enfant, comment je peux l'accompagner, et aussi comprendre la scolarité, les accompagner à aller vers le collège, à aller vers l'institution. Donc maintenant, ça fait à peu près presque 10 ans que le dispositif existe. Là, le dispositif s'arrête.
En termes de décrochage, en termes de déviance, il y a du risque pour les jeunes. En termes de stupéfiants, de trafic, clairement, ce risque est très fort et très présent. Et notre présence permet de le réguler. Donc aujourd'hui, on parle de lutte contre le narcotrafic.
Je suis éducateur spécialisé là sur l'équipe de Lunel. Je suis là depuis à peu près un an et demi. La plupart des gens qu'on accompagne, ça reste quand même des gens qui sont isolés socialement. Ça peut être tout type d'isolation. Enfin, ils peuvent être isolés socialement par rapport au monde scolaire, au monde professionnel, aussi à leur vie familiale. Globalement, le jeune un peu typique, même si en réalité on a une grande diversité d'accompagnement, ça serait un jeune qui a 15 ans, qui est en décrochage scolaire, qui peut être pris dans des réseaux de trafic de drogue ou des réseaux de prostitution, qui a aussi des difficultés dans sa famille. Mais ça, c'est vraiment une vision très stéréotypée qui reprend quelques éléments, mais souvent en réalité, les jeunes qu'on accompagne, ils cochent un ou deux éléments dans tout ça et on accompagne sur une thématique très précise.
« En 2024, APS 34 est venu en aide à 750 jeunes. Mais les coupures budgétaires vont réduire les capacités d'accompagnement de 25 à 40%. Au-delà des chiffres, ce sont surtout des liens humains, patiemment tissés avec les jeunes, qui risquent de se rompre. Mais comment les crée-t-il ?
Alors, ce lien de confiance quand on est en rue, le fait de juste de dire bonjour et de s'asseoir, juste de discuter avec eux, mais ça peut être sur un fait de société, de dire se présenter en tant qu'éducateur, ils viennent chercher qui on est en fait. Donc c'est comme ça qu'on arrive à créer du lien. Et du coup, on s'échange les snaps, les WhatsApp, Instagram, etc. Et du coup, on se revoit, soit au collège. Et l'idée, c'est de mettre des têtes sur des prénoms. Et la plupart du temps, les jeunes se rappellent de nous. On se revoit une fois, deux fois dans la rue. Et après, à un moment, il y a un lien qui se tisse. Est-ce qu'on peut se voir ? Donc, on prend un temps ensemble, on leur explique comment ça marche. Et même sur de l'exclusion temporaire, on leur explique bien qu'on est, on n'est pas là pour les punir. On est là pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils en sont là.
Le rapport est assez bon dès le début. Il se peut que des fois, ils aient une méfiance par rapport à ce qu'est le métier d'éducateur spécialisé, parce que souvent, c'est un rapport très ascendant, ça engendre des confrontations. Nous, l'idée, c'est de leur montrer que nous, notre approche, notre fonction, nous oblige à être sur une horizontalité, d'avoir un rapport plus humain.
Qualité essentielle, c'est l'accueil.
L'authenticité.
Beaucoup d'écoute.
La rigueur et l'adaptabilité.
Quel a été le souvenir le plus marquant de votre carrière pour l'instant ?
En vrai, ce serait difficile d'en choisir un. Là, il y a quelques jours, on accompagnait une jeune sur des démarches administratives. Et le jour où on doit l'accompagner, elle a une rupture amoureuse. Du coup, elle est très triste et on se rend compte que c'est pas pertinent de faire de l'accompagnement administratif. Et donc, on se retrouve dans une voiture à aller acheter un fraisier parce que c'était ce qu'elle voulait pour surmonter un peu sa déprime. Et donc, on discute pendant une heure, deux heures. Enfin, voilà. Et c'est plein de trucs un peu comme ça, très anodins.
Erwan nous a proposé de rencontrer des jeunes qu'ils suivent pour avoir leur témoignage sur le travail des éducateurs et leur point de vue sur la coupe budgétaire. Malheureusement, les jeunes ont annulé la rencontre car les torrents de pluie qui se sont abattus sur l'UNEL ce jour-là ont fait trembler des genoux les jeunes sudistes qui avaient peur de braver la tempête pour venir jusqu'à nous. De quoi faire sourire les plus bretons.
On n'a plus de budget. Comment on peut dire non ? Et comment on peut expliquer qu'à la personne qu'on n'a pas de budget ? Parce qu'on ne peut pas répondre aux besoins. La problématique, c'est comment dire à une personne qu'on travaille contre la précarité et qu'en fait, on ne pourra pas répondre à la précarité, tout simplement.
Voilà, donc un reportage qui nous montre le rôle crucial que jouent les éducateurs auprès des jeunes issus de quartiers marginalisés ou même des publics. On peut prendre l'exemple, un exemple récent qui me parle en tout cas, c'est les émeutes qui ont suivi la mort du jeune Naël en 2023 et l'action des éducateurs qui s'est retrouvée en première ligne. Est-ce que ce sentiment d'abandon risque pas d'augmenter la défiance des jeunes envers les institutions ? Et est-ce que les éducateurs n'ont pas un rôle de plus en plus important à jouer dans ce lien ?
Non, c'est délicat comme question. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il faut voir que en tant qu'éducateur, si on arrive effectivement à influer sur une partie de la vie des jeunes, il y a une grande partie qui nous échappe. C'est-à-dire que nous, on n'a pas du tout la main ni sur la quantité d'emplois disponibles, ni sur le nombre de logements disponibles, ni sur globalement beaucoup de choses qui impactent leur vie. Et que la réalité, oui, c'est que c'est des quartiers qui sont extrêmement défavorisés, dans lequel il y a des taux de chômage qui sont considérables. Il y a des personnes qui vivent dans des appartements vétustes, petits, dans lesquels des fois il n'y a pas d'eau chaude pendant plusieurs semaines, où les personnes sont obligées de descendre, remplir des seaux pour se laver et descendre de cet étage. Oui, ben, quand on cumule en fait toutes ces difficultés-là, évidemment que les personnes mènent une vie difficile et que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, lorsqu'ils grandissent dans cet environnement-là, qui voient qu'en fait, il y a peu d'espoir, même entre guillemets, dans la voie légale, à savoir aller se lever le matin pour aller travailler je ne sais où pour un SMIC. Bien sûr qu'il y a des personnes qui vont opter pour l'option trafic de drogue, par exemple, pour ne citer que celui-ci. Et la réalité, c'est que nous, les éducateurs, on ne peut pas influer là-dessus. ne peut pas influer sur les raisons profondes qui amènent en fait des centaines de milliers de personnes dans le pays, parce que je tiens aussi à le rappeler, on parle toujours de narcotrafic, mais c'est près de 200 000 personnes dans le pays qui vivent de ça, qui vivent de ça partout, quoi, et que là on parle d'un problème de société. C'est un truc de masse, quoi. Ça ne concerne pas qu'un seul quartier, et que donc ça montre bien la dimension systémique de ce que vivent ces personnes-là, et que nous, notre marge de manœuvre là-dessus, elle reste réduite. Pour autant, et c'est là où par contre je défends la profession, c'est que même si on ne peut pas influer sur ces aspects-là, en fait, il y a des moments de vie dans lesquels il y a des personnes qui craquent ou qui sont au bord de craquer, au bord de glisser, et des jeunes, en fait, l'âge, l'adolescence, c'est très important, c'est le moment où justement beaucoup commencent à décrocher. Et des fois, par notre action, on arrive en fait à éviter que ces jeunes-là glissent, qu'ils s'accrochent, qu'on arrive à leur donner des perspectives. Et c'est ça qui permet qu'il y ait certains jeunes qui finissent par ne pas glisser. Et que je pense que ça, on peut le revendiquer, quoi. Mais il faut surtout pas oublier ce que c'est que la réalité que de grandir dans un quartier populaire, de subir le racisme, de subir la discrimination à l'embauche lorsqu'on essaye de s'en sortir, et que ça, c'est des facteurs importants sur lesquels on ne peut pas influer, mais qu'il faut absolument dénoncer.
Donc oui, il y a beaucoup d'efforts à faire pour faire en sorte, et notamment une reconnaissance d'au-dessus pour vous aider à reconnaître votre métier, et puis vous permettre de justement mieux l'exercer pour garder ce côté médiateur.
Oui, Antoine Velletti, de quoi aurait besoin, un peu pour revenir un peu sur tout cela, les éducateurs et éducatrices pour mener à bien finalement leur mission à long terme, notamment
là rapidement, on va pas avoir le temps, parce que du coup en vrai la liste de nos doléances elle peut être très longue. On a construit une mobilisation depuis plus de 6 mois. Peut-être que dans un premier temps, si on doit retenir une seule chose dont on aurait besoin, c'est l'arrêt un peu de ce qu'expliquait Max tout à l'heure, ce jeu de ping-pong entre les responsabilités entre l'État, le département et la mairie, parce qu'on voit que cet état de fait de jeu de ping-pong, ça fonctionne sur la prévention spécialisée, mais on a eu la même situation sur le bidonville où l'État et la mairie se renvoyaient la responsabilité d'une expulsion. On l'a actuellement là avec des familles, 6 familles dont 30 personnes qui sont à la rue actuellement et qui font un sitting devant la mairie pour demander un hébergement, et où la mairie renvoie la responsabilité sur l'État. Voilà, ces situations-là, on voit que ça dépasse largement le cadre de la prévention spécialisée. Et dans un premier temps, peut-être ce que nous, on aimerait, c'est cet arrêt du ping-pong de ces responsabilités, et avoir un espace de discussion pour que nos revendications puissent être entendues afin d'améliorer les situations.
Très bien, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre programme. Un grand merci à nos deux invités, Max Müller et Antoine Velletti, de leurs témoignages pertinents, ainsi qu'à Célia Alibeu, Lucie Frata et Perrine Sauvage pour leur travail autour du sujet. Merci également à Alice Rollet à la technique. C'était une émission de Divergence concoctée par les étudiants en master journalisme de l'ESJ Pro et l'université Paul Valéry. A bientôt pour un nouvel épisode de L'Autruche.
C'est le bipède le plus rapide au monde.
Pas ça, non!
Ses articulations et tendons très élastiques génèrent une puissance phénoménale. Il confère aux volatiles vitesse et foulée bondissante.
Non! Non! Non!
Qu'est-ce que cela peut bien être?
Un anneau? Un bijou?
Peut-être un corbeau?
L'autruche est le plus grand oiseau actuellement vivant, mais elle est incapable de voler.
Il est bien connu que les autruches, au long cou, enfouissent leur tête profondément dans le sable quand elles se sentent menacées.
Faire l'autruche, c'est refuser de voir un problème en espérant qu'il s'en aille tout seul.
Ah, c'est embêtant, dans les oiseaux, c'est les mecs.
L'autruche.